Nous avons choisi dans notre série un intervenant in situ Culture Génum, ce magnifique conservatoire de la Fondation Berliet dans l'Ain, près de Lyon. Parce que l'entreprise créée par Marius Berliet en 1899 à Lyon donc, représente une page d'histoire du XXe siècle. Ces camions participent à la Première Guerre mondiale, notamment à Verdun, et on sait l'importance qu'a la motorisation dans cette Première Guerre mondiale. L'entreprise arrête ses fabrications de voitures que nous avons ici en 1939 et continuera son expansion dans les poids lourds. Après la Seconde Guerre mondiale, elle est mise sous administration provisoire pour motif de collaboration industrielle, mais restituée à la famille fin 1949, c'est une page d'histoire aussi qu'il ne faut pas cacher. Arrivent alors les Trente Glorieuses et l'entreprise dirigée par Paul Berliet, toujours à Lyon, va alors participer au développement économique dans les camions poids lourds, dans les autocars, les autobus de transport en commun, des véhicules utilitaires, des cars scolaires, des autocars. L'entreprise accompagne ce développement de la France des Trente Glorieuses, à la fois continentale, dans les pays en voie de développement, dans les colonies, donc par exemple avec le pétrole algérien d'Assim et Saoud, et les missions transsahariennes, on parlera des missions Ténéré et Tchad en 1959 et 1960. L'entreprise emploiera jusqu'à 24 000 personnes en 1974, dont 17 000 dans la région lyonnaise. À cette même date, en 1975, elle est vivement incitée à fusionner avec Renault, l'entreprise Renault, la régie nationale Renault, et elle formera l'ossature de Renault véhicules industriels. Ce sont donc plusieurs pages d'histoire auxquelles nous vous invitons aujourd'hui avec nos intervenants. Ces pages d'histoire sont, premièrement, comment transforme-t-on une voiture hippomobile, c'est-à-dire tirée par des chevaux, en voiture motorisée, et vous avez des exemples derrière, en fait, on y reviendra. Deuxième page, la Première Guerre mondiale et les camions Berliet. Troisième page, l'aventure saharienne et les énormes camions du désert. Quatrième page, ce développement économique des Trente Glorieuses avec ses bus, cars, transports en commun, ce que la Fondation a joliment appelé camion des villes, camion des champs. On verra par exemple le camion La Vache Sérieuse par opposition à celui, il y a celle qui rit. Et donc avec nos deux intervenants passionnés, Madame Monique Chapelle, vice-présidente de cette Fondation Berliet, et Monsieur Paul Piémontaise, qui a été ingénieur chez Berliet et qui est conseiller du président de la Fondation. Alors, rendez-vous dans le hall poids lourd à présent.
Donc, pour démarrer cette formidable collection, qui, soit dit en passant, comprend une trentaine de marques, il n'y a pas que du Berliet, il est intéressant de noter que des constructeurs comme Latil, qui a démarré à Marseille, avaient déjà, pour la plupart, imaginé tout ce qui allait suivre. Et notamment, parce que ça c'est assez particulier, un véhicule traction avant. Mais ce qui est encore plus particulier, c'est la publicité qui était faite à côté et qui proposait aux clients, vous venez avec vos chevaux et vous repartez avec une motorisation moderne et des chevaux vapeur. Et vice-versa, si vous n'êtes pas content, vous revenez et on vous remet les chevaux et vous repartez. Cette publicité de 1899 résume ça, je peux vous lire quelques lignes. La transformation d'une voiture à chevaux en automobile et vice-versa s'opère en moins d'une heure. Donc, vous voyez, les principes techniques et les principes publicitaires étaient déjà en place. Quelques détails techniques. Le bloc traction avant possède toutes les contraintes et les obligations qui sont intervenues près de 70 ans après sur les véhicules courants, c'est-à-dire un moteur en position transversale, des cardans sur les roues pour permettre de braquer. C'est une vraie traction avant et motorisation avant. Le véhicule arrivé en coupé les brancards qui portait les chevaux, et l'ensemble, comme un kit, était mis en place sur les deux longerons en bois du véhicule anciennement hippomobile, c'était renforcé, réservoir d'essence, allumage, lancement de démarrage par une poulie tirée et une corde, et le client repartait. Et s'il était content, il ne revenait pas, et s'il n'était pas content, on revenait, on remettait tout en place. Mais au plan de vue technologique, tout est là. Cardan, essieu, moteur transversal et lancement par un radiateur de refroidissement à eau. Il ne manquait rien, et réservoir.
Nous sommes devant le CBA Berlier, le camion réceptionné aux mines en 1913 et qui fut véritablement le héros de la Première Guerre mondiale. Il faut dire que Marius Berlier a fait son premier camion en 1907 et par conséquent en 1913, ce camion avait les qualités requises de simplicité, de robustesse et d'économie. Près de 15 000 de ces véhicules ont été livrés pendant les 52 mois du conflit. Ce véhicule était robuste, comme je l'ai dit, était simple, et c'était le camion à tout faire. En fait, celui que vous avez derrière nous est un camion de l'antenne du service sanitaire, antenne chirurgicale, mais l'utilisation la plus importante était le transport de troupes et le transport de munitions, c'est-à-dire le plateau bois classique à ridelles avec une bâche. Ce camion s'est parfaitement illustré sur la voie sacrée. Bien sûr, tout le monde se souvient de ce qu'est la voie sacrée. Je le rappelle néanmoins, c'est la chaussée qui maintenant s'appelle la RD 1916 et qui relie Bar-le-Duc à Verdun. C'était la seule voie d'accès, en plus de la voie ferrée qui s'appelait le Petit Meusien. Et cette voie sacrée, pendant 300 jours et 300 nuits, a connu une noria de 3500 camions par 24 heures. Certes, il n'y avait pas que des berliers, mais néanmoins, les berliers représentaient plus de la moitié des camions circulant sur la voie sacrée. C'était le capitaine Douminck qui avait organisé la logistique du transport routier et il l'avait organisé de manière extrêmement rapide. Et comme il disait lui-même, la conduite, la circulation, le trafic, c'est un problème, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'embarquement à Bar-le-Duc, et c'est le débarquement à la fois des troupes, à la fois des munitions au nord de Verdun. Et ceci étant, il fallait aussi compter avec l'entretien des véhicules. Donc dépôt de pièces de rechange, garage de maintenance, toute la logistique des transports routiers a été inventée en ce temps de guerre. Quant à la chaussée elle-même, il faut savoir que la voie sacrée n'a été empierrée qu'en 1915. Auparavant, c'était un chemin de terre. Et le capitaine Douminck a été extrêmement précis. Aucun véhicule non motorisé circulera sur la voie sacrée. Et en période de véritable apogée, malheureusement, le terme je ne l'aime pas, mais il y avait un véhicule qui circulait toutes les 4 secondes. Et en temps plus normal, c'était tous les 14 secondes. Alors, ce véhicule CBA, voici une anecdote qui nous a été contée en 1986 par un médaillé poilu qui avait fait Verdun et qui disait à l'ossuaire de Douaumont, en regardant avec beaucoup de bienveillance et de nostalgie ce véhicule, « Nous l'aimons bien, CBA, parce qu'entre les deux blocs moteurs, on pouvait faire chauffer la boîte de singe. »
Oui, ben, en fait, la boîte de singe, c'était de la viande de bœuf, évidemment. Mais pour qu'elle soit chaude, il fallait que le moteur tourne. Et c'est peut-être probablement un autre surnom que le CBA a bien mérité, c'est que c'était l'increvable. Il a tourné tout le temps. C'est-à-dire, pas de panne, Et longtemps après, puisque jusque à la fin des années 20, des années 30, on fabriquait encore du CBA, on a dû en faire une trentaine de mille à peu près. Donc, cette légende qui est celle des gens qui ont pratiqué, donc ce n'est pas contestable, c'est évidemment tout l'apport qu'il a amené au plan de la logistique pendant la guerre et toutes les qualités qui ont permis, encore 10 ans après, d'aller 10 à 15 ans après, d'aller au bout des besoins de la reconstruction et de l'évolution du transport en France. Donc, CBA, l'increvable. Là, nous sommes dans un hall extrêmement intéressant, autant au plan historique qu'au plan économique et au plan de l'évolution technique. Que ce soit pour le transport de voyageurs touristiques ou pour la recherche économique ou retrouver les routes anciennes qui ont la route du sel, par exemple, qui ont permis de traverser l'Ergue ou les grandes surfaces du Sahara. Donc, on peut voir ici un ensemble de matériel, transport de personnel, recherche, transport de matériel spécifique, rallye particulier pour ouvrir de nouvelles routes, et l'évolution technologique qui a permis de faire ce que vous voyez en fond, c'est-à-dire les camions du désert avec toute la capacité de franchissement qui était nécessaire pour aller au bout de ces objectifs. Par exemple, une anecdote intéressante, la plupart de ces véhicules, ils sont partis, ils sont revenus, mais ça ne s'est pas passé facilement. Le grand problème dans le sable, c'est de passer. Lorsqu'on s'enfonce, on n'avance pas. Donc, tout a été essayé. On a bien ressenti à un moment donné qu'il fallait augmenter la surface pour pouvoir moins s'enfoncer. C'était élargir les bandes de roulement, mais ça coince. Et puis, tout simplement, revenir au principe de Marius Berliet. Regardez autour de vous, regardez la nature, elle vous donne les réponses. Donc, qu'est-ce qui marche dans le Sahara ou dans les grands déserts et qui ne s'enfonce pas? C'est le chameau, tout simplement. On voit bien, le pied d'un cheval, c'est pointu, le pied d'un chameau, c'est évasé. Lorsqu'on divise le poids du chameau par les quatre surfaces de ses pieds, on atteint une pression au sol qui varie entre 900 grammes et 1 kg par centimètre carré. Eh bien, messieurs, voilà l'objectif à atteindre. Que ce soit le T100 qui fait plus de 55 tonnes ou les TBO 15 qui sont dans les 20 et quelques tonnes ou 30, ou la gazelle qui n'est pas là mais qui tourne dans des différentes expositions, tous ont cette pression au sol et ne s'enfoncent pas. Et les Berliers ont traversé les grands raids, que ce soit le Ténéré ou les différents passages dans ce pays très particulier, ont toujours respecté cette pression au sol. C'est à créer les légendes. Ce fantastique camion, c'est plus d'un mètre carré par roue au sol lorsqu'on baissait la pression pour traverser le Sahara. Son gigantisme, ce n'était pas pour parader quoi que ce soit, c'était simplement pour gagner du temps. Lorsqu'on approchait des zones intéressantes, à l'époque donc de l'évolution des hydrocarbures, il y avait à peu près 6 mois entre l'arrivée, la recherche, la mise en place, la recherche et le démontage. Grâce à ce type de camion et à la flottille qu'il y a autour, vous voyez, on l'appelait vaisseau du désert, c'est-à-dire qu'il y avait tout un camion de service autour pour changer les roues, pour réparer ou quoi que ce soit. Donc, l'ensemble des activités générées par cet objectif-là étaient ramenées à 4 mois de moins qu'à l'origine, tout simplement parce que les masses, qu'on a appelé ensuite indivisible et qui devait être indivisible, était transporté massivement. Au début, on arrivait, on remontait le derrick, il faut à peu près 2 mois, 2 mois et demi, on creusait et on découvrait ou pas ce qu'il y avait, et ensuite on redémontait pour partir. Grâce à ce matériel, que ce soit les pompes à boue ou les ensembles ferraillés qui maintenaient tous ces poids, c'était 4 mois de gagné. Voilà, la recherche de l'efficacité. Nous voilà donc devant le T100 dont on vient de parler et dont les proportions sont évidentes par rapport à nous-mêmes et ce que ça représente sur le plan de sa réalisation pour pouvoir obtenir ce dont on vient d'expliquer le pourquoi et le principe.
Au-delà de l'aspect économique, en 1959 et 1960, les deux missions Berliet, Ténéré et Tchad se sont préoccupés d'améliorer la connaissance à l'époque que l'on avait du Sahara. Songez que les chercheurs étaient obligés jusque-là de partir sur des chameaux et donc provision d'eau et ne pouvaient pratiquement pas rapporter d'échantillons et de documents de ce qu'ils trouvaient. Remarquable opportunité, les 9 gazelles ont rapporté 5 tonnes d'objets lithiques qui sont maintenant déposés au Musée national de la préhistoire, aux Aisies de Taillac, en Dordogne. Près d'une soixantaine de personnes faisaient partie de cette mission Berlier-Ténéré, la première étant d'environ 6 semaines, de la mi-novembre au début janvier. 9 gazelles, 5 jeeps, un avion, un hélicoptère composaient ce schéma. Elle allait de Ouargla, dans le sud algérien, jusqu'à Forlami. Le Berlier GLR, ou camion de la reconstruction, élu en 1994 camion du XXe siècle. Il a commencé à être commercialisé en 1950 et il s'arrêtera en 1986. C'est avant tout un camion polyvalent, multi-usage, à la fois routier et chantier. Songeons qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la reconstruction était immense. Et d'autre part, d'autres besoins naissaient. C'était les aéroports, c'était les infrastructures, c'était les barrages. Et Dieu sait si le GLR a été utilisé dans tous ces usages. Ensuite, c'est un camion qui a beaucoup évolué. Le camion des années 80, sur le plan de l'architecture, sur le plan de l'économie, était toujours le même. Mais sur le plan de la charge, il avait dû multiplier presque par 2 sa charge utile. Son confort, bien évidemment, puisque même si sa cabine était révolutionnaire en 1950, elle s'est beaucoup améliorée. Et en 1950, c'était la première cabine totalement emboutie, avec pour l'époque une visibilité importante. Et songez qu'il y avait un plafonnier à l'intérieur de la cabine, ce qui n'existait pas sur les modèles précédents. Ce véhicule, comme je vous le disais, a beaucoup évolué par son confort, par sa puissance et donc par ses possibilités.
Petit détail complémentaire sur cette gamme, qui effectivement, comme on vient de le dire, sur le plan technique, sur le plan modulaire, a apporté des avantages considérables. L'arrivée dans le concept Berlier de la place du chauffeur et de sa capacité à trouver l'aise qui est nécessaire pour avoir envie de faire ce qu'on fait. Par exemple, le volant. Vous voyez le volant des tout premiers et celui des derniers. Ils sont hauts et grands parce qu'il n'y avait pas de direction assistée au départ. Et progressivement, l'arrivée de la direction assistée, la planification de l'intérieur, le confort de la cabine éclairée, la panoramique du visage sur la cabine relax où on voit une capacité à engloutir la lumière et une capacité à voir sur un horizon beaucoup plus élargi, ont fait qu'effectivement, les conducteurs se sont assimilés à leur camion. Et ça reste jusqu'à aujourd'hui. On aime un Berlier parce qu'on l'a conduit et on en parle à sa descendance.
Nous sommes ici dans l'îlot des Caribus. Quelle différence entre les deux ? Les bus desservent les villes et les quartiers urbains. Le car, lui, dessert les liaisons entre les villes et dessert la campagne. Autrement dit, l'un est routier et l'autre est davantage urbain. Les autobus, nous pouvons dire que les réseaux urbains étaient développés dans les grandes villes avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est uniquement après la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a eu véritablement une explosion au niveau des autobus, grâce à l'urbanisation des décennies suivantes, et une explosion également du marché des autocars, non seulement pour le tourisme, mais aussi pour les transports scolaires, mais aussi pour des cars de ligne qui se développent dans les campagnes et qui desservent les gares notamment. 1932, un TN6 Renault, bien connu des Parisiens qui ont tous couru pour monter sur la plateforme au Grand Air. 1968, RATP toujours, un autobus Berliet. Et derrière moi, un trolleybus du Citral, c'est-à-dire du réseau urbain lyonnais. Et trolleybus qui, comme particularité, avait d'être court et parce que il desservait le quartier de la Croix-Rousse, c'est-à-dire des rues étroites, sinueuses et en pente.
Au sortir de la Première Guerre mondiale, il fallait retrouver un peu de gaieté et de joie de vivre. Donc les grands magasins, les grands fabricants d'objets de luxe, etc., ont repris progressivement la cadence de leur objectifs et Paris, entre autres, ou les grandes villes en France, ont mis en phase l'objectif de retrouver un peu de joie de vivre. Donc, un certain nombre de véhicules de ce genre, je ne sais plus combien à l'époque parce qu'on n'a pas, de référence, ont été aménagés pour pouvoir apporter chez les clients qui l'attendaient soit des fleurs, soit des colis particuliers, des cadeaux, et honorer dans chaque quartier la clientèle qui en faisait le choix. Ce type de véhicule donc, a démarré, 20, 23, 25, la Deuxième Guerre arrivant, tous ces matériels ont été transformés en utilitaires, autrement ils disparaissaient. Nous avons retrouvé ce matériel-là en version utilitaire, assez fatigué, sur le plan aspect comme toujours, hein, parce qu'on était dans les années, fin des années 50, on a retrouvé une photo de l'époque où le même véhicule travaillait, et avec cette photo, on a, et une épave de cette époque a été retrouvée chez un ferrailleur, où le châssis, l'avant et l'amorce de la caisse existait, et on a pris pour objectif de la reconstituer. Tout ce qui est mécanique, tout ce qui est moteur, châssis, transmission, freins et autres, même rouillés, même fatigués, sont d'époque. À partir de cette photo, avec nos techniciens, qui sont des artistes bien plus intéressants que tout ce qu'on peut imaginer, notamment un taulier formeur hors pair et un mécanicien que rien n'arrête, et puis quelques personnes dont nous faisons partie qui s'étaient attelées à dire « on va reproduire la vérité ». Et ce qui s'est passé, avec l'aide d'une école de formation qui est l'école Boisard, au travers de tout ce qui est l'ossature bois de la voiture, essayait d'approcher l'équivalence que seule la photo nous permettait de dire, parce qu'on n'avait aucun papier. J'ai eu une idée en disant que la seule chose qui est valable sur une photo, c'est la roue, puisqu'elle est comme elle est, et on va faire un rapport par rapport à la roue. Donc là, on a vu que la hauteur sur la photo de la roue était 2,5 fois la roue, etc., de façon à pouvoir reconstituer. Partant de ces quelques bases de données, on a reconstitué l'ossature bois, et ensuite, notre taulier formeur a plaqué sur cette ossature pour que cette voiture et l'aspect que vous voyez, et tous les gens qui l'ont vu après ont dit « mais c'est exactement la même ». Je ne peux pas le certifier, mais je peux vous garantir qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'écart. Donc c'est une histoire assez particulière de la capacité qu'on avait en France à faire des belles choses, de la capacité qu'on a à la Fondation à les renouveler, ça c'est important, et de la capacité qu'on a à satisfaire l'histoire dans son intégrité.
Voici un modèle AGC Renault de 1938, ce fourgon léger sur les routes du Jura et sur les routes de la Haute-Saône a vendu beaucoup, beaucoup de fromage. Et vous voyez la vache Grosjean. Mais derrière la vache Grosjean, il faut lire la vache sérieuse. Parce que cette société familiale, pour être en concurrence valable avec la vache qui rit, a trouvé que vache sérieuse, c'était vraiment supérieur. Hélas, vache qui rit n'a pas eu la même réaction et des procès très longs se sont engagés entre les deux familles, et tant et si bien que c'est la famille Grosjean qui a perdu le sien et a été priée de rayer sa publicité vache sérieuse, et c'est la raison pour laquelle vous avez une publicité énorme vache Grosjean. Procès perdu, mais néanmoins, la vache Grosjean a voulu rappeler qu'elle se trouvait dans toutes les maisons sérieuses. Clin d'œil à la publicité précédente. La fondation de l'automobile Marius Berliet a été créée en 1982. C'est une initiative de Paul Berliet qui avait remarqué que la mémoire de l'industrie en France n'intéressait pas grand monde. Or, à cette époque de désindustrialisation, il songeait à tout le savoir-faire, à toutes les innovations qui avaient été faites antérieurement et dont il n'était pas question de mettre en valeur. Alors, la Fondation de l'automobile Marius Berliet, s'est-il juré, ne s'occuperait pas seulement de l'histoire de Berliet, mais s'occuperait de l'histoire des constructeurs de la grande région lyonnaise. Ils étaient un peu plus de 100 à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et à l'ensemble des marques de constructeurs de camions français. Et sous deux angles. D'une part, ce que vous voyez ici, c'est-à-dire ce que nous appelons la mémoire métallique, les objets, les moteurs, les organes, les camions, les caribus, et puis ce que vous ne voyez pas, mais qui est vraisemblablement au moins aussi important, ce sont les archives et la documentation liées à l'histoire polymorphe des constructeurs. Pas seulement la technique, l'histoire des dirigeants, l'histoire commerciale, l'histoire sociale, l'histoire économique d'une manière générale. Et tant le conservatoire que les archives et la documentation servent à de nombreux objectifs. Beaucoup de chercheurs académiques, des chercheurs autodidactes, beaucoup d'expositions qui nous sont demandées, soit à travers des objets, soit à travers des documents, des visuels, et puis beaucoup, beaucoup de compléments d'informations qui nous sont demandés, venus maintenant des quatre coins du monde, avec notre site internet. Nous continuons dans le même esprit pour que le passé serve aussi de racine au futur.
La cabine relax était fantastique, les gens, aujourd'hui encore, en parlent. Le pilote, il était chez lui. Et on n'a pas voulu, mais c'est une conséquence qui a existé, c'est que derrière, c'est un peu les pilotes qui faisaient acheter à leur patron le camion qu'ils voulaient.
Au moment où c'était tout de même une société, le marché du transport était dans des sociétés très émiettées.
Hein. Oui,
malheureusement, maintenant, c'est moins le cas.
Attends, c'est fini. Le
pilote, parce qu'on regarde le bas du bilan, point barre. Hein.
Les patrons ont tenu compte de ça. Parce
ah oui.
Si mon pilote, il marche. Et aujourd'hui, on s'en fout.